L'invité des RFI Matin, c'est un sportif de haut niveau qui est avec nous en studio ce matin, athlète paralympique et membre de l'équipe de France de rugby fauteuil. Bonjour Riyad Salem.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous partez pour Rio début septembre. Ce seront vos 5e Jeux paralympiques. Vous avez 45 ans passés, même si vous ne les faites pas. Comment vous vous sentez? Comment s'est passée votre préparation sportive?
Elle est toujours en cours, la préparation, elle est pas terminée.
Elle n'est pas terminée alors que vous partez dans 15 jours?
Le 2. Mais les matchs commencent le 14, le premier match contre les Américains.
Alors les dernières touches, en quoi ça consiste?
Là, on va avoir un stage encore avec l'équipe de France à Bourges, là, à partir de jeudi. Donc, c'est de travailler la partie physique, de garder une dynamique pour être tonique. Et après, dès qu'on se regroupe, c'est toute la partie technique qu'on essaye de mettre en place pour pouvoir se confronter à chaque équipe et avoir une technique spécifique sur chaque équipe.
Je rappelle que vous êtes né handicapé, que vous avez pratiqué le sport très tôt, vous avez été champion de natation, champion de basket fauteuil. Aujourd'hui, vous faites partie de l'équipe donc de France de rugby fauteuil. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline?
C'est de dégommer les handicapés. Non, ce qui me plaît dans cette discipline, c'est que c'est un sport évidemment de combat collectif. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des handicaps très lourds qui ont créé ce sport. Ce sont à l'origine des tétraplégiques, hein, ces anciens hockeyeurs et footballeurs américains qui ont voulu créer un sport de combat collectif. Et c'est assez impressionnant de voir l'image qu'on peut avoir du handicap, surtout si on parle de tétraplégie ou de personnes amputées ou d'IMC, et que là, on s'aperçoit que c'est vraiment du haut niveau. C'est assez impressionnant à voir, techniquement, physiquement, et l'état d'esprit aussi me plaît énormément. Ça reste l'esprit du rugby, l'âme du rugby, donc c'est un sport passionnant.
Vous parlez de combat et de dégommer des adversaires parce qu'il y a des chocs, c'est assez violent quand même.
Il y a des chocs, on se rentre dedans. Ouais. Mmh. Les fauteuils sont un peu à la Mad Max avec des pare-buffs pour les attaquants, et avec les défenseurs, on a des grilles devant pour essayer de se faire choper. Donc voilà, c'est assez spectaculaire. Hein. Vous verrez, normalement, sur France Télévisions, on va diffuser les matchs, donc... Oui. Vous allez découvrir un nouveau sport assez impressionnant.
Vous serez 126 cette année au sein de l'équipe de France paralympique. Il y avait plus de monde à Londres en 2012, donc la dernière fois. Comment ça s'explique? Comment on explique la diminution du nombre d'athlètes paralympiques?
Par rapport à l'équipe de France ou par rapport à...
Oui, l'équipe de France.
C'est sûrement aussi les qualifications, il faut se qualifier. C'est-à-dire que là, on n'a pas des sports collectifs comme le foot, hein. On n'a pas le basket masculin. Ça fait tout de suite des effectifs importants qui sont pas présents. Et après, dans les autres sports, il faut faire aussi les minima. On n'a pas un quota de place chaque année. Il faut se qualifier tous les 3 ans avant les Jeux.
Ça veut dire que le niveau baisse? Ça veut dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait au niveau des fédérations pour qualifier suffisamment d'athlètes?
Alors là, comme c'est une question un peu générale, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Je ne sais pas trop si c'est le niveau qui baisse. Ou, vous savez, vous avez des cycles aussi de génération d'athlètes, de sportifs. La fédération, elle investit énormément sur les jeunes. On a pas mal de pôles espoirs qui se développent, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc peut-être aussi la culture et la mentalité a évolué. Hein. C'est plus difficile de faire un champion aujourd'hui qu'avant, parce que les jeunes ont beaucoup plus d'attractivité avec les jeux, avec plein d'autres disciplines, et d'avoir une rigueur dans le sport, s'entraîner régulièrement, aller faire des compétitions, c'est un état d'esprit. Et peut-être qu'aujourd'hui aussi, une culture qui est beaucoup moins
collective.
Beaucoup moins collective, ouais, puis moins impliquée, c'est-à-dire que on est dans une culture où on consomme les choses, quoi. On veut immédiatement obtenir du résultat, alors que pour être un champion, ça prend du temps.
Vous avez vu que les organisateurs de Rio 2016 sont en train de couper dans le budget des Paralympiques pour couvrir les frais des JO qui se terminent cette semaine?
Oui, c'est un peu dramatique. On est tous un peu abasourdis par cette information et cette nouvelle. Surtout qu'on a vu l'évolution au début, c'était quasiment même de supprimer les Jeux Paralympiques. Mais ça a fait un espèce d'électrochoc un peu partout au niveau du monde. C'est sûr que là, il va manquer entre 7 et 8 millions d'euros. Et ce sont les nations, on va dire, qui avaient l'habitude d'être invitées par le comité paralympique qui vont malheureusement subir les conséquences.
Les petits pays.
Les petits pays, ouais. C'est vraiment dommage parce que les Jeux sont un grand rendez-vous planétaire, et que on a toujours encore ce grand écart entre le Nord et le Sud, et je trouve ça dommageable et vraiment triste pour le mouvement sportif.
Est-ce que ça veut dire aussi que le comité paralympique pourrait peser plus dans la confrontation, si j'ose dire, avec le Comité international olympique?
Ben là, c'est pas une problématique du Comité olympique ni paralympique, c'est vraiment le Comité d'organisation. Donc c'est le pays qui accueille, la ville qui accueille, qui a normalement ses budgets propres. Donc là, le souci, c'est peut-être de voir à l'avenir s'il y a des candidatures, avoir un minimum de garanties. Mais
voilà, le Comité paralympique pourrait dire vous débrouillez, mais vous touchez pas à l'argent qui nous est destiné.
Oui, mais normalement c'est la logique. Mais après, si on y touche, c'est très compliqué. Au fait, là, c'est le comité d'organisation qui a pris une partie des sous qui étaient dédiés aux Paralympiques. Donc là, c'est puis la conjoncture du Brésil, elle est pas du tout évidente. C'est pas dompé à la bonne période, parce que en général, les Brésiliens, l'esprit de fête et de sport est assez incroyable dans ce pays. Et là, on a une conjoncture économique qui fait que le pays est bousculé et il n'y a pas l'enthousiasme qu'on connaît du Brésil, quoi. On voit avec les manifestations, c'est très compliqué.
Je voulais parler dopage aussi avec vous. Vous savez, et nos auditeurs le savent aussi, les athlètes paralympiques russes ne seront pas de ces Jeux paralympiques cette année. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Ils ne seront pas là pour cause de dopage?
Alors, j'avoue que j'ai pas du tout suivi cette histoire-là. Donc, ouais. Quand je maîtrise pas trop le sujet, je préfère pas m'aventurer là-dessus.
Vous n'avez jamais été confronté à des athlètes dopés depuis que vous avez commencé votre carrière
sportive? Ah si, bien sûr, oui. Ah oui, c'est évidemment.
Y compris en compétition.
Moi, mes premiers jeux, c'était à Barcelone en 92. J'étais athlète non officiel, donc c'est pour ça que ça compte pas dans les jeux. Et les Américains a été dopé. C'est comme ça qu'on a récupéré, du moins que l'équipe de France de basket a récupéré la médaille de bronze. Donc déjà en 92 à Barcelone, il y avait déjà des histoires de dopage. Et on l'a encore revu en 2000, qui était une autre forme de dopage avec le handicap mental, avec le sport adapté. Donc voilà, on sait qu'à partir du moment où il y a de l'argent, où il y a de la visibilité, où il y a une attractivité importante dans un domaine, il peut y avoir de la triche. Et une personne handicapée reste un être humain avant tout, avec ses qualités et ses défauts. Après, c'est pour ça qu'on a des contrôles antidopage. Et je pense que l'état d'esprit du mouvement sportif, la majorité des gens ne se dopent pas, heureusement, et que ce sport est, du moins, les jeux sont, on va dire, dans une dynamique d'amateur. Donc on n'est pas, comme dans certains sports professionnels, poussé par la pression de l'argent. Mais je pense que peut-être que ça arrivera demain, et voilà. Mais aujourd'hui, ça reste encore assez clean, même s'il y a des cas, comme partout, hein, on peut pas l'éviter.
Il y a des moutons noirs.
C'est malheureusement, ça fait partie de la vie.
Une question rituelle, mais qui s'impose à chaque fois que les handicapés ont cette visibilité à l'échelle mondiale. Est-ce que, selon vous, les JO plaident pour la cause d'une meilleure prise en charge des personnes handicapées?
Les jeux paralympiques ont cette faculté d'apporter une visibilité assez incroyable, et ça fait vraiment évoluer les mentalités. Déjà aussi au niveau des infrastructures, donc c'est pour ça que sur la candidature de Paris 2024, on est à bloc, on est comme des fous, on veut vraiment qu'on gagne cette candidature, parce qu'on sait qu'on va gagner quelques années sur l'accessibilité, sur l'image des personnes handicapées. Et là, le fait que France Télé cette année diffuse quasiment sur toutes les chaînes de France Télévisions les Jeux Paralympiques va vraiment faire évoluer un petit peu le mouvement et l'image du handicap. Après, il faut comprendre que à l'échelle planétaire, chaque politique est indépendante. Même en Europe, on a beau être européen, mais chaque pays européen gère sa politique handicap de manière isolée, quoi. On n'a pas une politique commune. Donc, mais c'est vrai que les Jeux paralympiques amènent une belle image, une image dynamique, et ça fait dissoudre un petit peu les préjugés qu'on peut avoir sur le handicap.
Eh bien, merci beaucoup Riyad Salem. On se donne rendez-vous donc début septembre pour suivre ces Jeux paralympiques. Et évidemment, on vous suivra aussi. Vous êtes membre, je le rappelle, de l'équipe de France de rugby fauteuil, sportif de haut niveau. Donc, rendez-vous à Rio à partir du 2 septembre. C'est la date à laquelle vous arrivez. Merci beaucoup.
Merci.